mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous recevons ce soir Julien Rivoire de la FSU et du mouvement de Coalition Climat 21 qui va nous parler de cette année de lutte par rapport au climat en direction dans ce mois de décembre de la conférence COP21 qui se tiendra à Paris. Mais pour commencer l'émission, bien sûr, les chroniques d'actualité de Jean-Marc, qui va nous parler de justice.
De justice, ou peu s'en faut, puisque le problème de la justice française, c'est sa lenteur, ce qui fait qu'une bonne partie des condamnés sont déjà morts, ou n'ont plus rien à craindre des condamnations qu'on leur inflige. C'est notamment le cas en ce qui concerne les problèmes politiques et politico-financiers, en particulier, puisque ces affaires traînent en longueur. Les gens qui sont incriminés sont en général des spécialistes, entourés de spécialistes pour faire traîner dans les tribunaux, ce qui fait qu'au moment où ils sont finalement inquiétés réellement par la justice, ils ne sont souvent même plus en fonction. Et donc, lorsqu'on les condamne à l'inéligibilité, ce n'est plus très grave. Qu'on prenne les affaires Chirac, qui ont tellement traîné en longueur qu'une partie était déjà prescrite, ou alors que pour celles pour lesquelles il a fini par se faire épingler, il a réussi à se faire passer pour gâteux, ou encore, il a réussi à se servir de fusible, comme Juppé, ou encore, très très fort, il a réussi à traîner tellement que certains de ses adjoints sont morts du cancer, même s'ils ont laissé des cassettes. Donc, dans ces cas-là, les condamnations valent plus très cher. Le cancer passe d'abord. C'est comme les impôts en cas de dette. Alors, les époux Tibéri, pareil, on vient d'avoir la satisfaction, après une vingtaine d'années de procédure, d'avoir la condamnation des époux Tibéri, qui ont magouillé pendant 25 ans à la mairie de Paris, et notamment qui ont fait voter des électeurs fictifs, ce qui leur a permis d'être réélus plusieurs fois de justesse, mais réélus quand même. Et donc, la justice a tellement traîné que non seulement ils ont fini leur mandat, qui était douteux, mais qu'aujourd'hui, on leur inflige une peine d'inéligibilité, alors qu'ils ne se présentent plus et qu'ils sont retraités. Bravo la rapidité. Troisième exemple, les époux Balkany. Les époux Balkany, qui sont des spécialistes aussi de la magouille tous azimuts, qui font des leurs dans le 92 depuis 25 ans, avec des dizaines de problèmes judiciaires, de problèmes fiscaux qui apparaissent. Et aujourd'hui, ils sont enfin mis en examen, et même Balkany, monsieur, a vu son immunité levée à l'Assemblée nationale. Grande nouvelle. Il faut dire que là, ils ont fait très très fort dans les magouilles fiscales. L'affaire commence maintenant, elle va mettre 5 ans, 10 ans peut-être, à savoir Isabelle Balkany et son charmant époux ont respectivement 67 et 68 ans. Donc vont-ils réellement être punis? On peut réellement en douter.
Il ne faut oublier qu'ils ont déjà été condamnés et déjà été réélus. Là, oui, c'est plutôt leurs administrés dont il faut avoir des doutes.
Alors, oui, ça aussi. Alors, pour finir, quand même, on peut pas parler de ce genre d'affaires sans parler d'un grand cumulard dans le genre, Nicolas Sarkozy, qui a quand même une quinzaine d'affaires dans lesquelles il se trouve inquiété, et pour lequel Mediapart a fait un décompte cette semaine. On fête le 25e mise en examen dans son entourage. Donc, 25 mises en examen autour de lui, et lui n'est toujours pas condamné. Et la grande question, c'est de savoir si lui, qui vient de reprendre la tête de l'UMP avec toutes ses casseroles aux fesses, là aussi on peut saluer la grandeur des militants UMP, s'il va pouvoir ou non se présenter pour l'élection présidentielle de 2017 qu'il rêve de remporter. Alors, il serait peut-être urgent de donner des moyens à la justice en général et en particulier pour ses affaires politico-financières pour qu'elle travaille un peu plus rapidement qu'à un train de sénateur, justement. Et peut-être que si on lui donnait des moyens, on verrait la fin d'une affaire politico-financière qui s'appelle l'affaire Boulin, qui est ouverte depuis 1979.
Oui, mais tu sais bien, Jean-Marc, que tous les cadavres n'ont pas la même odeur. Je crois que c'est le titre de ta chronique suivante.
Alors, les cadavres n'ont pas la même odeur et on a vu beaucoup de cadavres ces derniers temps, malheureusement, dans l'actualité, depuis Charlie. On peut même dire qu'ils s'alignent. Et là où on peut faire une critique, c'est que l'information ne fait jamais du fond, mais de la forme, du spectacle. Et on répète en boucle 20, 30, 40 fois la même chose, et en général des choses qui n'ont aucun intérêt. On présente des images en boucle qui souvent ne présentent pas plus d'intérêt. Et affaire après affaire, on n'apprend rien. Il y a eu l'affaire Mera avec des choses absolument indécentes au niveau télévisuel. des remarques complètement absurdes de gens qui ne connaissaient rien à l'affaire et qui faisaient du remplissage, alors qu'on était face à un criminel donc quand même plus que détestable. On a interrogé tous les voisins, les chats des voisins, les perruches, etc. C'était absolument abominable. On a recommencé avec Charlie et l'après Charlie, avec des interviews complètement débiles pendant des semaines. Et là, on a eu le comble du people, c'était l'accident en hélicoptère dans les Andes pour une émission débile réservée à des gens pas beaucoup mieux, avec deux hélicoptères qui ont un accident, c'est très banal, mais il y avait des people dedans. Et quand il y a des people, ça fait vendre. Et donc, on a fait des cartons et des cartons de commentaires sur ces people et qui sont souvent des has-been qui essayent de redorer leur blason en faisant des émissions de télé-réalité. Et on a fait des trucs larmoyants pendant des programmes entiers de télévision et de radio sur un sujet qui était absolument creux, alors qu'au même moment, dans le monde entier, des gens meurent par centaines pour des raisons beaucoup plus sérieuses qu'un un banal accident dans une émission de télé-réalité pourrie. Alors quand même, dans les moments radiophoniques très très grands qu'on a entendus à cette occasion, il faut que je cite Philippe Candeloro, qui est un grand penseur, qui a eu droit à quand même 4 minutes d'antenne à une heure de grande écoute sur France Info, c'était avant la grève malheureusement, et dans laquelle il dit évoquer les minutes de silence faites par les survivants. Et alors là où ça vaut le coup, Candeloro est vraiment très bon, et les minutes de silence qui leur a permis de s'exprimer et de dire tout ce qu'ils avaient à dire. 4 minutes pour dire ça, une heure de grande antenne. Et voilà où en est la presse. Alors malheureusement, si on a 4 minutes à donner à Philippe Candeloro pour cette chose bizarre, si on a des heures entières pour aligner des banalités sur le copilote qui s'est crashé dans les Alpes, par contre, rien, pratiquement rien sur le Kenya. 148 morts dans des conditions absolument effrayantes, une journée entière de cauchemars islamistes, et là, rien. Rien, pratiquement rien sur le Kenya. Alors il faut croire que la cote d'un étudiant kényan est moins forte que celle d'un lycéen allemand, ou alors, deuxième hypothèse qui n'est pas forcément meilleure, il faut croire que dans l'infospectacle que nous subissons, bah, le suicide d'un copilote, c'est plus nouveau qu'un massacre islamiste. Et donc on en parle plus parce que justement c'est nouveau et qu'on vend du cerveau disponible et plus de l'info.
Alors l'info prend plusieurs tonalités, et entre autres de déterrer des vieux rapports qu'on croyait oublié et où on revoit surgir le gaz de schiste. Hein, Alex ?
Vieux rapport, mais...
Déterrer des vieux rapports, c'est de la nécrophilie.
Je ne commenterai pas. Donc j'allais dire vieux rapport, mais actualité brûlante. Donc messieurs, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. On va sortir de la crise et relancer la croissance grâce au gaz de schiste. Le Figaro est formel. Donc c'est le Figaro qui a déterré le vieux rapport en question. D'après un rapport commandé par notre ex-ministre des Finances, Arnaud Montebourg, on a un véritable trésor sous nos pieds. La valeur des gisements de gaz et de pétrole non conventionnels en France serait de l'ordre de 224 milliards d'euros. Je vous laisse apprécier, 224 milliards d'euros. De quoi financer plus de 200 000 emplois, d'augmenter le PIB de 1,7 points par an en moyenne sur 30 ans, et de couvrir l'essentiel des besoins de la France en gaz sur cette même période. Et malgré ça, on tergiverse sous prétexte que la fracturation hydraulique, la seule méthode qu'on connaisse actuellement pour extraire ces ressources, serait un chouïa polluante. En fait, il y a plein d'autres raisons, trois bonnes raisons pour ne pas se lancer dans le gaz de schiste. Le premier, je l'ai trouvé dans un article de ce journal de gauchiste qui est en train de devenir La Tribune, sous la plume d'Aurélien Saucé, économiste à l'OFCE, qui nous explique qu'il ne faut pas s'emballer. Alors, si on applique aux gisements français les méthodes qu'on utilise pour évaluer la valeur des gisements américains, en tenant compte donc des coûts de production réels et des difficultés techniques qu'ont connues la plupart des producteurs, la baudruche se dégonfle d'un coup. On passe de 224 milliards d'euros à 15 milliards d'euros. Les 224 milliards d'euros correspondraient au cas où tous les gisements français auraient les mêmes caractéristiques géologiques que le gisement le plus productif des États-Unis, ce qui est évidemment un peu improbable. Mais visiblement, au ministère de l'économie, comme parmi les compagnies pétrolières, on a intérêt à gonfler un petit peu les chiffres, histoire de faire pression sur nos élus pour qu'ils reviennent sur une loi liberticide qui empêche de forer en rond. Voilà. Deuxième argument, le prix du pétrole. Actuellement, il est de $50 le baril.
En l'occurrence, c'est la forêt noire.
Or, le coût de production moyen du pétrole de schiste américain est de $65 le baril. Autrement dit, l'extraction du pétrole et du gaz de schiste n'est plus rentable depuis quelques mois. Qu'à cela ne tienne. Il suffit de patienter le temps que les cours remontent et stocker en attendant. À long terme, le prix du pétrole devrait remonter. Sauf que cet argument ne tient pas forcément non plus la route. L'une des raisons de l'effondrement du prix du pétrole, c'est l'arrivée massive des pétroles non conventionnels américains sur le marché. Et c'est le fait qu'avec ces pétroles non conventionnels, l'épuisement des ressources fossiles n'est pas prêt de se produire. Le serpent se mord la queue. Le pétrole a baissé grâce à l'exploitation des huiles de schiste. Mais plus il baisse, moins cette activité est rentable. Et si la France et l'Europe se lancent à leur tour dans le gaz et le pétrole de schiste, ça devrait continuer à faire baisser les cours et rapporter encore moins. D'un point de vue économique, il serait donc probablement plus sage de laisser dormir ses réserves en attendant que les cours remontent durablement, c'est-à-dire quand on aura épuisé les autres sources d'énergie fossiles. Je vous laisse imaginer le tableau. Enfin, troisième argument, écologiquement, développer le gaz et le pétrole de schiste est complètement irresponsable. Les carburants non conventionnels ont un grand avantage, ils permettent de repousser le moment où on aura épuisé les ressources d'énergie fossile de la planète. De ce point de vue-là, il y a grâce ou à cause d'eux, plus la même urgence d'opérer la transition écologique. Mais les émissions de gaz à effet de serre, elles continuent de modifier le climat. Donc précisément au moment où on commence timidement à faire des économies d'énergie, au moins en Europe, et à développer les énergies alternatives, l'arrivée du pétrole et du gaz de schiste menace de décourager les rares efforts en matière d'écologie. Avec un prix du pétrole très bas et plus de menace d'épuisement des ressources à moyen terme, il n'y a plus d'incitation économique à faire des économies d'énergie et à investir dans des alternatives renouvelables. Pour le bien de la planète, il vaudrait mieux ne pas se lancer dans le gaz de schiste et mettre au contraire le paquet sur le solaire, l'éolien et les autres énergies alternatives. Voilà.
C'est le solaire de la peur.
Bravo. Mais tout ça, c'est pour garder une belle planète. Tu dis une planète smart, une chic planète, à l'affaire Louis Trio.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attac.
Et nous recevons ce soir Julien Rivoire de la FSU, donc de la centrale syndicale FSU, mais qui est là pour représenter la coalition Climat 21, qui a un site, coalitionclimat21.org, où vous pourrez trouver un ensemble d'organisations, dont l'association Attac, qui présente un ensemble d'actions pour le climat en cette année, où à Paris se tiendra en décembre la conférence COP21, une conférence de tout l'ensemble des partis qui veulent faire bouger officiellement dans l'ONU le climat et qui, de conférence en conférence, n'ont pas encore fait grand-chose. Alors, peut-être une première partie, c'est finalement l'état de la planète par rapport à ce grand processus de l'ONU. On se demande quelle est l'urgence.
Et il y a Schwarzenegger qui sera là. On lui a dit que c'était Robocop.
Ça commence bien.
Ça commence. Bon, bonsoir. Dans quel contexte on se retrouve? On se retrouve dans un contexte d'urgence climatique. Hein. Les conséquences du réchauffement climatique se font déjà sentir. On estime aujourd'hui, et rapport après rapport du GIEC, de la communauté scientifique, qui aujourd'hui développe un large accord sur les constats, c'est qu'on est déjà aujourd'hui à une hausse de la température moyenne de près de 1 degré, de 0,8 degré depuis la fin du 19e siècle, et les impacts pour la planète sont déjà à l'œuvre. Alors on en parle souvent, c'est la réduction de la calotte glaciaire, mais c'est aussi, et l'actualité nous démontre régulièrement, c'est la multiplication d'événements extrêmes. Au-delà des impacts déjà en cours, c'est les impacts à venir. Et là, on sait que si on n'arrive pas à limiter le réchauffement, et même si on arrive à le limiter à 2 degrés, que l'impact pour la biodiversité, pour l'agriculture, seront très importants. Ces impacts-là seront très importants et auront des conséquences pour l'ensemble de la population. Ça veut dire que avec une augmentation même de 2 degrés, on sait que la réduction des terres agricoles pour le maïs, par exemple, sera de l'ordre de 40%. Donc vous imaginez bien sûr les conséquences pour l'alimentation de la population sur cette planète. Donc ça veut dire que la nécessité, l'urgence climatique conditionne une nécessité d'action immédiate. C'est un peu comme si on était en chute libre. Après, on a encore la possibilité d'ouvrir le parachute, c'est la transition énergétique. Et puis, il va falloir, dans tous les cas, de toute façon, installer un terrain d'atterrissage, c'est l'adaptation, parce que les conséquences, quelles qu'elles soient, quoi qu'on fasse aujourd'hui, on sait qu'il y aura des conséquences, et notamment pour les populations les plus pauvres. Donc ça veut dire une transition énergétique, ça veut dire d'agir sur, et c'est possible, hein, dernièrement, vous n'avez pas parlé dans l'actualité, mais il y a eu un rapport qui a fuité, un rapport de l'ADEME, qui montre que à l'horizon 2050, ça coûterait pas plus cher, pas beaucoup plus cher, que on soit à 100% d'énergie renouvelable en France. Et puis c'est agir sur l'adaptation, et notamment pour les populations les plus pauvres de cette planète, et ça veut dire là, bah, il y a un coût, et ça veut dire qu'il faut agir sur la possibilité d'un fonds vert, d'un fonds financier qui permette aux populations les plus pauvres de développer les moyens de s'adapter à ces conséquences-là.
Puis il faut sensibiliser les gens. S'il y a 40% de maïs en moins, il n'y a plus de pop-corn au cinéma.
Alors c'est peut-être une des rares façons de faire bouger les Américains, l'absence de pop-corn, parce qu'ils font partie des gens qui essayent de bloquer, en tout cas qui sont certainement pas parmi les acteurs les plus actifs pour l'évolution des différents débats internationaux. Alors justement, quel est le processus? On entend souvent parler de ces conférences internationales, processus de Shanghai, etc. Alors comment ça a fonctionné un peu par rapport à l'ONU, entre autres, tout ce processus?
Ça fait maintenant près de 25 ans, hein, qu'il y a des réunions régulières sous l'égide des Nations Unies. Là, c'est la 21e COP, donc c'est un rassemblement des 194 États qui sont membres de la Convention climat. Et l'objectif de ces conventions, c'est de négocier, d'adopter des décisions et a priori de veiller à leur suivi. Alors, le constat premier, c'est que si... on est d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est qu'a priori, ces conventions, elles n'ont pas atteint leur objectif. Hein. Depuis 25 ans, l'augmentation des gaz à effet de serre est à peu près de 60%. Alors que ça fait 25 ans qu'il y a des discussions sur la question climatique. C'est la traduction d'un manque de volonté. On a pris l'exemple des États-Unis. L'Europe n'est pas non plus parfaitement exemplaire en la matière. Et puis, il y a aujourd'hui aussi de nouvelles puissances, on pense à la Chine, qui sont des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, ça ne veut pas dire que cette convention, il faut... la balayer d'un revers de main. On n'est pas pour des accords bilatéraux ou plurilatéraux qui mettraient de côté les plus petits États, notamment de l'Océanie, etc. Donc une perspective multilatérale où l'ensemble des États, on voit au chapitre, et que les plus petits États puissent négocier au même titre que les gros, c'est un principe sur lequel je pense qu'il faut tenir. Mais aujourd'hui, on voit bien que le rapport de force de la société civile est insuffisant, que les COP sont très investis par les lobbies et les multinationales qui défendent leurs intérêts et qui sont pas des intérêts conciliables avec les intérêts de la population et du climat. Et voilà, le résultat est celui-ci, hein, c'est qu'aujourd'hui, les négociations internationales nous placent sur une trajectoire d'une augmentation de 3,5 degrés, donc bien au-delà de ce que les scientifiques estiment viable. Une augmentation de 2 degrés, ça posera un certain nombre de problèmes. Au-delà, on ne sait pas quel pourra être l'emballement.
Parce que le nerf de la guerre de toutes ces conférences, c'est que les États s'obligent, se contraignent les uns les autres à être vertueux. Or, on a l'impression que, au contraire, à chaque fois que la conférence se termine, le texte, c'est tout juste exiger que chacun puisse s'auto-regarder dans son miroir le lendemain matin, alors qu'il y a le mot justice n'apparaît jamais pour contrebalancer les excès.
Il y a un désaccord de toute façon pour un grand nombre d'États, et c'est pas étonnant, c'est les plus puissants économiquement, pour que l'accord soit contraignant. Donc on est plutôt sur des modalités où aujourd'hui, par exemple, ce qu'il n'y aura pas dans la COP 21, c'est une négociation sur les contributions au fonds vert qui permettrait de faciliter l'adaptation, ou sur les engagements des États à réduire les gaz à effet de serre. Ça, c'est pas dans la négociation. Donc là, on est en cours de recueil des contributions pour le fonds vert et surtout sur les engagements, mais on sait qu'elles sont insuffisantes. Donc la question qui doit être posée pour nous, mouvement de la société civile, c'est de savoir comment on crée un rapport de force qui soit suffisant pour les contraindre à à engager la transition économique et la mise au pot commun le plus possible.
Et donc en décembre, pour une fois, cette conférence n'est pas à Shanghai ou à l'autre bout du monde, elle va être à Paris. Est-ce que ça fait que... Enfin, on entend Hollande en parler régulièrement. On a l'impression même qu'il en a fait un objectif des mois à venir pour sa com personnelle en termes d'écologie. Mais ça va être encore un gros flop? Ou est-ce qu'il y a une petite particularité sur cette 21e conférence parisienne?
Ça devait être... c'était présenté jusqu'à peu encore comme l'accord historique qui permettrait pour la première fois un accord mondial sur le climat suite à l'échec de Copenhague qui a eu lieu en 2009, hein, qui a abouti sur une impossibilité de... Enfin, en tout cas, sur un non-accord, un constat d'échec. Aujourd'hui, les délégations françaises et les représentants français commencent à rétro-pédaler un peu, et on sait que, justement, l'accord de Paris ne sera pas à la hauteur de l'exigence que pose le changement climatique en cours. Alors, ça ne veut pas dire que rien ne doit être... on ne peut rien attendre de ce texte. Il risque d'y avoir des négociations, surtout davantage sur les modalités du processus, avec, sans rentrer trop dans les techniques, mais l'idée qu'il y a un rythme de rencontres plus régulières, et peut-être, mais même ça, c'est pas sûr, ce qu'ils appellent un effet cliquet, c'est-à-dire que les engagements des États, ne puissent pas revenir dessus 5 ans après. Bon. Mais on est sur de la modalité de négociation. Mais encore une fois, lors de la négociation en décembre, ce qui est fondamental, à la fois les engagements pour chaque État et les engagements au fonds vert, ne sont pas dans le cadre de la négociation. Alors ça ne veut pas dire, si on avait un mouvement très fort, une contrainte très importante, que politiquement, les États ne pourraient pas revoir leur copie. Mais on est bien non pas dans l'ordre de la négociation, mais dans l'ordre de la politique et du climat social et idéologique qu'il faut faire changer.
Alors, un des bons moyens de faire réagir les gens, je crois que c'est de suivre l'exemple proposé par HK et les saltimbanques, qui, au lieu de dire « soyons vertueux », dit « niquons la planète ».
.3 Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des militants de Attaque.
Et nous recevons ce soir Julien Rivoire, qui, pour la coalition Climat 21, nous a exposé les processus onusiens pour essayer de... Enfin, le processus dû à l'ONU, hein, qui essaye de... Enfin, qui tente, on essaie de baisser à chaque fois d'un mot, hein, qui a essayé, qui essayera peut-être demain de faire quelque chose pour sauver la planète. Et on a donc évoqué la conférence COP21 qui est en décembre à Paris. Et justement, on a insisté sur l'enjeu d'une mobilisation pour essayer de faire réagir le politique, mais aussi faire pression populaire sur l'ensemble des pays du monde. Bref, une mobilisation pour sauver la planète. C'est vraiment possible, ça ?
C'est nécessaire, déjà. Parce que justement, on l'a dit, hein, on peut pas porter tous nos espoirs dans ce processus onusien. Il y aura pas de miracle à Paris. Même si, de toute façon, il y avait des avancées, pour l'instant, on n'est pas sur cette ligne-là. De toute façon, pour la mise en œuvre, la contrainte, la pression du mouvement est nécessaire. Est-ce que c'est possible? On sait qu'aujourd'hui, pour construire un mouvement pour la justice climatique, on a déjà un point d'appui. C'est que de plus en plus de personnes parlent de climat, que la conscience environnementale de l'importance de la question du climat se développe. Il y a de moins en moins de climato-sceptiques. On va dire que Claude Allègre... et qu'on sort, on les entend plus.
Alors, c'est vrai qu'on entend peu Claude Allègre. Hein,
oui, ou les autres, quoi. Mais et y a la conscience que ce phénomène est global. Alors, ça a deux effets. Ça entraîne le fait que tout le monde sait qu'il est concerné. voilà, que en tant que travailleur, en tant que étudiant, en tant que sportif ou en tant que habitant des montagnes ou de la campagne ou de la ville, tout le monde est concerné. Mais ça a aussi un autre effet plus difficile ou plus problématique, c'est que l'ampleur du problème, la conscience que c'est un problème systémique, fait que parfois, ça donne une difficulté à savoir par quelle boule prendre, quel est le fil de la pelote qu'il va falloir développer pour pouvoir entrer en mouvement et construire une mobilisation. Je pense que pour nous, pour construire un mouvement pour la justice climatique, il va falloir marcher sur nos deux jambes. La première jambe, c'est l'action concrète et immédiate. S'ancrer dans la réalité quotidienne de la population, s'appuyer sur les mobilisations qui existent déjà. Je pense aux luttes contre les projets inutiles et imposés, par exemple Notre-Dame-des-Landes. C'est s'associer à des luttes locales liées à des entreprises qui, pour sauver leur emploi, cherchent à réorienter la production. C'est lutter aussi pour le désinvestissement de collectivités territoriales. C'est l'exemple d'une campagne là qui est menée par 350.org, qui est une organisation au départ américaine, qui en France là fait porter auprès de la ville de Paris, a fait une lettre ouverte demandant que la ville de Paris et que les fonds de retraite des fonctionnaires de la ville de Paris se retirent de leurs investissements dans la production fossile. Donc on a des possibilités d'entrer par rapport à des luttes locales. Et puis je pense que le deuxième pied qu'il faut aussi faire marcher, c'est de réussir à construire aussi un projet enviable, utopique. Réussir à mener la bataille sur le terrain idéologique contre l'hégémonie actuelle du libéralisme. En clair, et Naomi Klein l'explique assez bien dans son dernier livre, c'est construire un mouvement pour la justice climatique, ça a vocation à être un catalyseur, à réussir à faire le lien entre des luttes environnementales et les luttes sociales, notamment en Europe, hein, contre l'austérité en Grèce, mais aussi actuellement au Québec, hein, on voit que ça repart, et réussir à construire un imaginaire enviable, désirable, qui fait que répondre aux défis climatiques, bah, ça nous offre des perspectives d'une autre société où on travaille moins et mieux, où on consomme mieux aussi, où on peut créer des millions d'emplois et lutter contre le chômage avec des boulots et des emplois qui répondent aux besoins sociaux et pas aux besoins de la finance, avec des transports qui sont accessibles et gratuits et des transports collectifs, mais aussi qui doit nous permettre de repenser la ville, etc. Donc, marcher sur ces deux pieds, avoir un horizon de long terme, de transformation sociale, on parle comme ça dans le syndicalisme, hein, un syndicalisme de transformation sociale, mais aussi de s'inscrire dans les luttes concrètes et immédiates. Si on fait pas les deux, on est soit hors sol, soit on répond pas aux défis systémiques que pose la crise climatique.
Alors on a un exemple concret qui vient d'être remis dans les médias, même si on en a déjà parlé il y a déjà plusieurs semaines dans cette émission, bien sûr toujours à la pointe de l'actualité la plus militante, c'est la pression qui a été faite sur les grandes banques françaises, et entre autres la Société Générale qui est la première à flancher. En fait, les grandes banques françaises, comme toutes les grandes banques, investissent de l'argent là où ça rapporte. Et la question écologique ou sociale qu'on vient d'évoquer, ils s'en moquent royalement. Or, la raison la plus profonde qui pourrait faire basculer une grande banque française, c'est pas la morale, hein, aux dernières nouvelles, ça n'a jamais fait pleurer un banquier. Par contre, c'est la pression, celle que tu évoquais à l'instant. Et justement, pas mal de petites actions locales, entre autres...
Tu veux parler de la pression atmosphérique?
Oui, oui. Enfin, la pression au Pays Basque a été assez forte, vu qu'il y a eu tout un mouvement busy qui a fait pas mal de bruit là-dessus. Ça a été aussi donné par attaque à peu près partout dans les villes de France. Ils sont allés faire des petites actions devant la Société Générale, hein, les petites agences que vous avez en bas de chez vous. Il y a eu aussi toute une campagne sur une île verte par rapport à aux Fralib, c'est-à-dire à ceux qui ont pu reprendre les tisanes éléphants, etc., où à chaque fois, il y a eu une campagne d'autocollants, vous avez peut-être participé à ça, en voyant le petit autocollant défendant l'éléphant, etc. C'est un mouvement social assez basique que tout un chacun peut mener. Et finalement, grande victoire dans les médias, les grandes banques françaises se retirent d'un immense projet minier en Afrique du Sud, si je ne dis pas de bêtises,
en Australie,
j'étais pas loin. Bon, oh, d'accord, j'étais pas loin. Et qui, avec pour but de faire la plus grande...
L'océan près.
Voilà, l'océan près, voyons, vu d'ici, tout est proche. Qui avait la plus grande mine à ciel ouvert de charbon, qui évidemment est une richesse insoupçonnée, mais qui est la plus grande des pollutions possibles à quelques distances faibles de la Grande Barrière de Corail, donc bien en Australie, hein. Et qui était aussi un désastre social imminent, avec une arrivée massive de travailleurs pauvres dans ce lieu. Enfin bref, toutes les raisons de ne pas investir, mais la vraie bonne raison qui a fait retirer, évidemment, les banques françaises, c'est pas celle-là, c'est avoir peur de déplaire à leurs clients. Et ça a pu suffire à faire retirer ce projet. Alors est-ce que ce projet ne se fera pas grâce à ça? On n'en sait rien, mais au moins on pourra considérer que les banques françaises n'auront pas trop mouillé dedans.
Ouais, mais quand il s'agit de saloperies, les investisseurs, on les trouve ailleurs. Regardez, Le Pen a été trouvé des financements en Russie, donc pour les Australiens et les mines à ciel ouvert, peut-être qu'ils iront trouver une banque laponne.
Une banque laponne, oui. Donc, si on reboucle sur toute cette justice sociale par rapport à tous ces événements, quels seraient les exemples un peu plus concrets par rapport à celui qui voudrait s'engager dans ce mouvement de protestation aujourd'hui?
Juste avant de revenir sur les échéances et les propositions qu'on fait justement pour construire là sur l'année 2015 le mouvement, les exemples que tu viens de donner montrent aussi l'importance pour le mouvement, pour construire un mouvement, de savoir cibler les responsables. Le changement climatique, il tombe pas du ciel, et il y a des responsables, et notamment des multinationales, des agents de la finance qui eux ont tout intérêt ou ont qu'un intérêt actuellement à agir. Donc la nécessité, elle est claire, on le voit, mais la possibilité, y compris de victoire, même si c'est des victoires partielles, etc., c'est par ces victoires-là qu'on engrange à la fois un petit rapport de force, mais aussi de la confiance. Et c'est essentiel. Alors, la coalition qui est très vaste, hein, qui regroupe plus d'une centaine de réseaux, avec en lien avec des grosses organisations et des gros réseaux internationaux, propose de rythmer un peu l'année 2015 pour aboutir
avant d'arriver à la campagne. Nous avons une pause publicitaire à respecter, pardon.
Oui, alors Anne-Sophie, toi qui connais le climat et ses incertitudes, ses dangers, peux-tu nous éclairer sur les huiles de protection solaire pour cet été?
Moi, j'utilise Tchernowil.
L'huile qui décape à fond.
Pardon, nous reprenons notre émission. Et donc, nous étions arrivés au calendrier d'action qui est possible pour tout le monde.
Pour tout le monde. Première échéance, c'est le week-end du 30 et 31 mai. Il se passe déjà des choses, hein, là, localement. Il y a le Toxic Tour Détox dans le 93, qui est une initiative très importante que vous pouvez retrouver sur Facebook,
mais,
etc.
On veut bien des détails, hein. C'est quoi le Toxic Tour? Surtout en 93, voyons.
C'est lancé par un collectif d'habitants du 93 qui, par des balades urbaines, montre à la fois comment il y a des espaces aujourd'hui qui participent, qui sont toxiques pour le climat, pour l'environnement. Mais il y a aussi l'aspect détox et de commencer à réfléchir ensemble sur comment on pourrait justement imaginer autrement notre ville et notre environnement urbain pour que ça soit moins toxique pour le climat et pour notre vie.
C'est ce qu'on appelle le New Deal.
C'est pas le New Deal, non. J'ai pas dû suivre. Ensuite, donc, si je reprends le calendrier proposé par la coalition, le dernier week-end de mai, on invite et on on espère qu'il y ait plus de 1000 initiatives en toute la France pour le climat. L'idée, c'est vraiment de multiplier plein d'initiatives localement, avec ses voisins, dans son quartier, dans là où dans son lieu de travail, etc. Et d'essayer, à la faveur de ces premières mobilisations, de construire des réseaux, de construire des collectifs pour construire par la suite tout ce qui doit advenir au cours de l'année. La seconde grosse échéance, c'est fin septembre, avec le rendez-vous donné par le collectif Alternatiba. Vous avez parlé de Bici. C'est eux qui, au Pays Basque, ont lancé cette initiative Alternatiba, qui marche très fort, avec plein de collectifs en France. Là, ils sont en train de partir pour un Tour de France en vélo, et avec plein d'étapes, pour aboutir à Paris le 26 et 27 septembre, avec la construction d'un grand village des alternatives, pour montrer que y a des solutions. On sait qu'il y a les responsables, on va essayer de les identifier et de leur mettre la pression, mais il y a aussi des solutions, elles sont déjà portées. Elles sont portées par des collectifs d'habitants, par des SCOP, etc. Et puis il y a le final pour 2015, puisque on compte bien ne pas s'arrêter là en 2016. 2015, c'est au moment de la COP. La COP va se dérouler les 15 premiers jours de décembre. Et donc, à la veille de la COP, le 29 novembre, on propose d'en faire une journée historique pour le climat mondial, à l'image de ce qui a pu avoir lieu en septembre, le 21 septembre dernier à New York, mais là avec, on espère, une plus grande ampleur, une grosse manifestation, deux grosses manifestations en France, une grosse manifestation à Paris, et puis des manifestations dans toutes les capitales de France à la veille de la COP. Ensuite, c'est la mobilisation générale à Paris, avec un gros week-end le 5 et 6 décembre. L'idée, c'est qu'il y ait un espace d'éducation populaire, de débat, d'information pour la population francilienne, hein, donc sur une grosse fac, etc. Il y aura aussi un village des alternatives, toujours porté par Alternatiba, sûrement plein d'initiatives. Puis toute une semaine, notamment du 6 au 12, où on espère que sans fleurs s'épanouiront, qu'il y aura plein d'initiatives artistiques, politiques, culturelles, etc., pour faire monter la mayonnaise et aboutir à un grand rassemblement, action, mobilisation de masse le 12 décembre pour envoyer le signal que, de toute façon, quoi qu'ils disent à la COP, la société civile est en marche, elle va pas s'arrêter là. Elle se mobilise, le mouvement pour la justice climatique, on espère bien qu'il va vivre et qu'il va se renforcer et qu'il va se donner pour perspective de se mobiliser localement dans chacun de ces pays vis-à-vis de chacune de ces collectivités territoriales au cours de 2016 pour faire la pression contre les multinationales responsables du changement climatique, mais aussi dans la perspective la suite, la COP22, on sait déjà que c'est au Maroc. Et on sait que ce processus-là, de toute façon, en lui-même, il ne résoudra rien. Donc la solution, elle est chez nous.
Alors si on veut donner deux grandes dates à prévoir, les deux grands mouvements où tout un chacun peut aller rapidement et de manière forte manifester, c'est la veille de la COP, c'est donc en décembre.
Le 29.
Le 29.
Novembre, voilà.
Le 29 novembre, ça sera un grand moment. Donc tu as cité rapidement la grande mobilisation du 21 septembre 2014 à New York, ça a pas mal surpris finalement, que les New-Yorkais soient aussi capables eux-mêmes de manifester pour le climat. Et est-ce que les Parisiens pourront faire pareil, et les Parisiens, et puis à travers toute la France. Et puis une deuxième journée qui est, lui, le 12 décembre. Qui sont peut-être un peu plus construites, un petit peu moins manifestations, mais plus d'alternatives, où là, on pourra aussi venir manifester son soutien à tout ce processus.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et d'ici là, c'est quand même toute l'année qu'il va falloir essayer de s'investir, si on peut, dans des collectifs locaux, dans des assos, rejoindre ATTAC pour ça, mais aussi aller discuter avec son voisin, avec sa voisine, avec son collègue de travail. Voilà, c'est l'affaire de tous là. Donc on a tous la possibilité de trouver notre place dans cette mobilisation avec les moyens qui nous sied.
Alors pour avoir toutes les infos, c'est coalitionclimat21.org. Il n'y a pas de trait d'union.
Pas de trait d'union, coalitionclimat21.org. 21.org. Ça, c'est le site de la coalition, la porte d'entrée vers plein d'infos. On peut trouver aussi plein d'infos, moi j'ai aucun souci pour le dire, sur le site d'Attaque France. Hein, voilà. Ou qui,
bon, ce sont, c'est l'ensemble de toutes les associations qui présentent des mouvements locaux ou non locaux. Vous pouvez trouver des actions globales, des actions près de chez vous, à travers tout l'été jusqu'en novembre.
Sans oublier Maître Nageur Sans Frontières qui prévoit des cours gratuits au Bangladesh.
Alors celle-là, je vais voir que j'ai presque envie de rire, non ? C'est pas loin, franchement, on va rire. Alors, on va enchaîner hein, sur la chronique suivante. Alors, ça n'a pas de lien direct par rapport à l'écologie, mais on a pu remarquer, en tout cas Gaël a remarqué, chez les journalistes français, un certain dérive physionomiste.
Oui, à l'entrée des boîtes, vous avez des physios donc, qui vérifient si votre tête est digne d'entrer au Macumba Club. Et ces types exercent aussi dans les journaux, où ils décident si quelqu'un a une tête à être ministre. Par exemple, début février, si vous vouliez vous informer sur le nouveau ministre de l'économie grecque, vous pouviez lire dans Le Point un article commençant par, je cite, « Carrure de rugbyman, universitaire globetrotter, l'économiste Yanis Varoufakis, nouveau ministre grec des Finances, etc. » Alors que si vous préfériez Challenge, vous y trouviez un papier débutant par ces mots. Carrure de rugbyman, universitaire globetrotter, l'économiste Yanis Varoufakis, nouveau ministre grec des Finances, etc. Quant à la Voix du Nord, elle nous informait que Varoufakis a une carrière de rugbyman et qu'il est un universitaire globetrotter. Un des avantages de vivre en démocratie, c'est le pluralisme de la presse. Alors vous l'avez compris, tout le monde a copié la même dépêche AFP et personne ne s'est cassé la tête à faire un vrai papier sur Varoufakis. Ces trois journaux et plein d'autres encore racontaient également que le nouveau ministre, je cite, fait entendre une différence, qu'il cultive aussi dans son allure, deux points, crâne rasé, mâchoire carrée, chemise bariolée et t-shirt à la mode plutôt que costume gris.
Je crois que dans le gala, ils n'avaient pas apprécié le t-shirt par contre.
Ah. Non mais. Et alors, le Huffington Post, lui, quant à lui, notait la différence de style, d'idée et de méthode que Yanis Varoufakis cultive avec soin. Deux points, crâne rasé, mâchoire carrée, chemise imprimée et t-shirt à la mode, tout dans son apparence indique qu'il ne veut pas ressembler aux technocrates européens en costume gris. Là, vous voyez, le journaliste a personnalisé un petit peu la dépêche AFP. Alors, il y a toujours le crâne, la mâchoire, la chemise et le t-shirt dans le même ordre. Mais cette fois-ci, la chemise n'est plus bariolée, elle est imprimée. Et alors, je ne sais pas si cette modification résulte d'une investigation poussée.
Non, c'est pour rappeler qu'il y a des gens qui savent lire.
Ou si c'est une extrapolation un petit peu audacieuse. En tout cas, bon, bariolé, c'est pas la même chose qu'imprimé. Imprimé, ça peut être des petits motifs discrets et chics. Bariolé, ça peut être la chemise hawaïenne. Alors, ce que je retiens surtout de cette dépêche AFP qui a été recopiée jusqu'à la nausée, c'est que Varoufakis cultive, je cite, son menton carré. C'est-à-dire, certains d'entre vous ne se rasent pas le matin. Varoufakis, lui, non seulement il se rase la barbe et le crâne, mais en plus, il passe 10 minutes à se mouler son menton dans un carré.
C'est un matheux, quoi.
Alors, le summum de l'analyse a été atteint il y a quelques jours dans M, le magazine du Monde. Vous connaissez pas M.
Alors M le maudit ?
Non. Alors, quand vous êtes CSP+, et que vous ne vous êtes pas acheté par Image comme votre coiffeuse, vous achetez M. C'est à peu près aussi profond que par Image, mais en plus, vous avez des pubs pour des Rolex et des BM. Et dans le dernier numéro, Marc Boget évoque la visite remarquée de Varoufakis au Royaume-Uni en ces termes. L'homme au crâne rasé et à la mâchoire carrée... toujours, est apparu vêtu d'une parka en cuir noir évoquant les pires heures du proxénétisme. Il n'a pas osé parler des pires heures de l'histoire. Vous savez, ça fait un peu Gestapo, le cuir noir. Alors, pourquoi ce traitement pour Varoufakis ? Est-ce qu'on parle systématiquement de Jean-Claude Juncker en disant « le président qui ne ressemble à rien » ? Est-ce qu'on présente systématiquement Michel Sapin comme « le ministre au crâne luisant » en le soupçonnant de passer son crâne au miroir tous les matins ? Donc on retrouve là toutes les techniques de propagande les plus basses éprouvées depuis longtemps. Et sans remonter à l'Antiquité, on se souvient de Alexandre Adler en 2004 qui avait traité Chavez de gorille bolivarien au milieu d'une pseudo-analyse politique dont il a le secret. Mélenchon aussi a subi un traitement similaire. Alors Mélenchon n'a pas grand-chose à dire sur son physique, il est à peu près correct. Alors pour compenser, on sélectionne soigneusement les pires photos de lui. Et Le Monde, dont certains journalistes ont eu quelques relations difficiles avec Mélenchon, excelle dans cet exercice avec des portraits de Mélenchon qui, bizarrement, rappelle vaguement des photos bien connues de Hitler en train d'éructer ou de Mussolini en train d'avancer le menton en serrant le poing. Mais comme Le Monde est un journal sérieux, il ne dit pas que Mélenchon ressemble à Hitler. Il se contente de le suggérer vaguement avec une petite photo. Donc de la même manière, les médias sérieux ne disent pas que forcément que Varoufakis est une brute qui ne peut pas être un ministre pour de vrai. Ils répètent juste qu'il a le crâne rasé et le menton carré. Entre nous, c'est déjà mieux que le contraire.
Bah, il faut être dans l'Hitler du temps.
Alors sur cette petite chronique, on peut rebondir, enfin je vais essayer de rebondir en parlant, là, encore une fois, des médias et des journalistes, parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai pris le temps de réécouter une grande émission, enfin un grand moment de radio, c'est le passage de Pierre Desproges dans l'émission de l'époque Les Tribunaux des Flagrants Délires, où était invité Jean-Marie Le Pen. Peut-être que vous avez tous entendu cette chronique, et là on peut même la visionner grâce
à
la...
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans.
En tout cas, on peut même la visionner, hein, et remonter le temps grâce à Internet, on peut voir Pierre Desproges face à Le Pen en train de faire sa chronique. Oui, parce que déjà Le Pen était reçu dans les médias dans les années 80, hein, ça vous surprend peut-être, mais les émissions radiophoniques avaient déjà, et télévisuelles, étaient obligées d'inviter les personnalités les plus malodorantes au nom du pluralisme d'expression. Mais ce jour-là, il y avait donc face à Jean-Marie Le Pen, Pierre Desproges et Louis Rigaud, et qui, face à ce Jean-Marie Le Pen, il faut l'imaginer jeune, rigolard, blond, souriant, un petit peu comme un méchant dans James Bond, quoi. Et le principe de cette émission, le Tribunal des Flagrants Délires, était de faire le portrait de l'invité à charge par Louis Rigaud et puis en défense par Pierre Desproges. Et là, face à ce cadre, on peut avoir la curiosité, que font deux personnes comiques face à quelqu'un qui est tout sauf comique ? Vont-ils essayer de se moquer de lui ou pas ? Non, ils ont fait un principe qui me semble évident. Ils ne lui ont pas parlé. Ils sont restés parfaitement indépendants. Ils l'ont invité, il était présent, il avait le droit de répondre, mais ils ont parlé d'autre chose. Ils ont utilisé une sorte de droit de réserve tout à fait humain, de ne pas parler à n'importe qui, n'importe comment. Et que fait Louis Rigaud ? Ben, il s'amuse à faire la journée type d'un fasciste solitaire. Et Pierre Desproges, lui, brode avec le talent qu'on lui connaît, bien sûr, du racisme ambiant parisien, des taxis parisiens, par exemple. Alors, bien sûr, tous les gens qui parlent dans le poste n'ont pas l'humour et l'inventivité d'un Desproges. Et nous n'en sommes pas plus doués qu'un autre ici. Mais les journalistes, en tout cas professionnels, pourraient prendre quand même au moins une leçon. Hein. On peut recevoir l'extrême droite au nom de la démocratie et du pluralisme, mais pourquoi les traiter sur le même plan d'égalité que tout homme politique ? Or, aujourd'hui, en écoutant les émissions où sont invités chaque jour Marine Le Pen, Fabrice Philippot, et Marion Maréchal Le Pen, qu'on entend régulièrement, voire même très régulièrement, on leur sert un discours mondain, voire quasi complice. En effet, ce sont des bons clients, ces hommes politiques d'extrême droite, là. Ils ont toujours le mot facile, la critique libre sur le gouvernement. Ils n'ont jamais participé à quelque chose d'envergure, donc ils peuvent se permettre toutes les critiques. Ils sont aussi très forts pour balancer...
Comment ils n'ont jamais participé à rien d'envergure? La Shoah, ça a quand même une certaine envergure.
Jean-Marc, quand même. Ils ont les solutions les plus idiotes que peuvent raconter le plus pot-colle de vos voisins. Ils les sortent à l'antenne, alors que ce sont des énormités, pas forcément que du racisme, hein, aussi des énormités sur l'économie, des chiffres parfaitement faux, que les journalistes gobent en sachant qu'ils sont faux, ces chiffres, au lieu de dire « mais monsieur, vous n'avez pas le droit de balancer ça à l'antenne », on les laisse parler. Évidemment, ce sont des bons clients, et puis très certainement aussi, derrière ces journalistes-là, ils ont des patrons qui disent qu'il faut les inviter. Il y a aussi, évidemment, l'envie de plaire, vu que les gens votent pour l'extrême droite, donc les journalistes disent il faut respecter l'opinion publique, on va pas ne pas les inviter. Peut-être aussi ces journalistes s'imaginent que inviter le Front National, c'est être proche du peuple, être populaire. Alors que ces journalistes-là, eux, ils sont plutôt, comme disait Gaël, CSP+, plutôt globalement de gauche, en tout cas très cosmopolite par rapport à tout ce qui est... ouverture par rapport à des gens de couleur ou autre, bien entendu. Mais le discours amené par le Front National, il est nouveau. Hein, c'est pas le discours classique de l'UMP ou du PS. Il est aussi nouveau en situation de crise. par le fait qu'on n'entend pas dans les médias des solutions aussi simples que virer la moitié de la population pour être plus heureux.
Enfin, plein de fraîcheur.
C'est plein de fraîcheur, tout ça. Alors, on peut quand même dire aux journalistes que de la fraîcheur, il y en a aussi de l'autre côté. Hein. C'est la gauche de la gauche est remplie de solutions. On le voit en Grèce. Ils ont réussi, peut-être grâce à des personnes comme Varoufakis, dont on vient de parler, ou Tsipras, qui ont réussi aussi à amener ça médiatiquement. Mais des solutions et des vraies, des solidaires où tout le monde peut participer ensemble, il y en a.
Mais on manque d'hommes politiques à la mâchoire carrée.
On manque peut-être d'hommes politiques à la mâchoire carrée, mais ce que on n'en manque pas, c'est de journalistes veulent.
Oui, mais alors le problème des conneries à l'antenne, c'est vieux, ça date du XVIIe siècle. La cigale et la fourmi...
Bon. Alors nous allons arrêter l'émission là et enchaîner par l'agenda. Alex.
Et alors donc ça commence lundi avec une réunion publique, et on parlait de Varoufakis, donc c'est une réunion publique pour soutenir le peuple grec, avec la participation des membres de Syriza Paris, du collectif Solidarité France-Grèce pour la santé et du collectif pour les Grecs. C'est lundi 13 avril à 19h30 à la salle de l'église Saint-Hippolyte, 27 avenue de Choisy, dans le 13e. Plus d'infos sur solidaritéfranco-grec.wordpress.com.
Attaque 15e et la LDH propose la projection d'un documentaire, Le prix à payer, de Harold Crooks, sur les paradis fiscaux et sur les nouvelles pratiques des grandes firmes internationales. Ce sera donc le 14 avril à 20h45 au cinéma Chaplin, Saint-Lambert, 6 rue Péclet, Paris 15e.
Mercredi 15 avril, sur la péniche Grande Fantaisie, sur le quai de l'Oise à Paris, vous pouvez suivre une croisière théâtrale mouvementée, ludique et instructive sur le projet du TAFTA, le grand marché transatlantique, avec projection débat. Plus d'enseignements sur le site attaqueparis1920.org.
Mercredi 15 avril, le projection du dernier film de Pierre Carl, Opération Coréa, Les Ânes ont soif. Ce sera suivi d'un débat en présence de Pierre Carl. C'est à 20h, cinéma Saint-André-des-Arts, 30 rue Saint-André-des-Arts. Et donc ça parle de pourquoi la presse hexagonale a boudé le dernier séjour de Rafael Correa, président de l'Équateur.
Et mercredi 15 avril, conférence débat La santé en France, et un débat autour du livre Capital Santé, quand le patient devient client, de Philippe Patifoulier. Mercredi 15 avril à 20h15, au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, Paris 14e.
Jeudi 16 avril à 19h à la Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d'Eau, Paris 10e, Acrimed, Médias et Extrême Droite, commentaires sur les fronts, le Front National et ses résultats.
Jeudi 16 avril à 20h au Théâtre des L'Opprimé, rue de Charolais à Paris, conférence gesticulée, les mystères du journalisme jaune avec le journaliste Philippe Merlan qui propose au public d'élucider une énigme, pour quelle raison la confiance entre les citoyens et les journalistes est-elle si faible ?
Du 15 au 17 avril, l'Archipel des Devenirs, partenaire de Grand Angle Libertaire, organise un colloque international, démocratie radicale et utopie. C'est à l'Amphi Buffon, 15 rue Hélène Brion, et à l'Amphi Turing, à l'Université Paris Diderot.
Le 18 avril, c'est la journée internationale contre le TAFTA pour mettre en échec les traités de libre-échange et d'investissement, avec plusieurs initiatives sur Paris. L'après-midi, à la mairie de Montreuil, un débat qui fait écho à la discussion d'aujourd'hui, Sauvons le climat, pas le TAFTA, avec plusieurs intervenants, des syndicalistes, des associatifs, des chercheurs. Et ensuite, manifestation à 18h, rendez-vous Place de la République, en direction de Place Stalingrad, pour finir autour d'un repas partagé et puis d'un flash mob et d'un bal. Toutes les infos sur le site france.attaque.org ou stoptafta.org.
Et enfin, du vendredi 24 au dimanche 26 avril, on fête les 20 ans de Cassandre Orchamps. Donc 3 jours de partage artistique et de débat ininterrompu. Et ça a lieu donc du 24 au 26 à 16h30. À la Maison de l'Arbre, la parole errante, 9 rue François de Berg à Montreuil.
Et l'émission se termine. Un remercie Boris qui est passé nous voir, Jean-Marc, Gaël, Alex, Claude à la technique et notre invité Julien Rivoire. Et on termine en écoutant Belle Ruche, Clock Watching.